C'était simplement un endroit où les débris avaient été balayés, avec plusieurs objets de petite taille gisant sur le sol, et dans un coin, on avait versé suffisamment d'essence pour laisser une odeur persistante, même sur ce plateau à très haute altitude. En d'autres termes, cela ne pouvait être qu'une sorte de camp, un camp établi par des êtres à la recherche de quelque chose et qui, comme nous, avait dû rebrousser chemin en constatant que l'accès aux profondeurs était bloqué. Je vais être clair. Les objets éparpillés provenaient tous du camp de Lake. Il s'agissait de boîtes de conserve ouvertes de la même étrange façon que celles que nous avions retrouvées dans le camp ravagé, ainsi que d'un grand nombre d'allumettes brûlées, de 3 livres illustrés et curieusement tachés, d'une bouteille d'encre vide avec son emballage de carton, d'un stylo cassé, de fragments de fourrures et de tissus de tente découpés de manière bizarre, d'une pile électrique usée avec son mode d'emploi, du dépliant qui accompagnait notre radiateur de tente et de feuilles de papier froissées. C'était déjà suffisamment préoccupant. Mais lorsque nous avons lissé les feuilles et regardé ce qu'il y avait dessus, nos pires craintes se sont trouvées confirmées. Les papiers tachés que nous avions trouvés au camp auraient dû nous y préparer. Et pourtant, une telle vision, là, dans ces profondeurs préhumaines d'une cité cauchemardesque, était presque insupportable. Un Jednet, en pleine crise de démence, aurait pu tracer ces groupes de points en imitant ceux trouvés sur les pierres verdâtres, tout comme il aurait pu être à l'origine de ceux figurant sur les abominables tombes en forme d'étoiles à 5 branches. Et il pouvait aussi avoir préparé les croquis rapides, plus ou moins précis, qui situaient les quartiers les plus proches de la cité et indiquaient un chemin partant d'un point que nous avons pu identifier dans les bas-reliefs comme une haute tour cylindrique et lors de notre survol comme un vaste gouffre circulaire et aboutissant à l'espace en étoiles où nous nous trouvions et aux galeries qui s'y ouvraient. Je le répète, il pouvait avoir préparé de tels dessins, car ceux que nous avions sous les yeux avaient de toute évidence été compilés, tout comme les nôtres, à partir des sculptures tardives glanées dans ce labyrinthe glacé, sauf que nous n'avions pas recopié les mêmes. Mais ce que cet homme, sans la moindre fibre artistique, n'aurait pu faire, c'est exécuter ses dessins selon une technique étrange et assurée qui, en dépit de la précipitation, était peut-être supérieure à celle des gravures originelles, la technique bien reconnaissable qui caractérisait les anciens à l'époque où cette cité morte était florissante. Certains diront que nous étions fous alliés, Danforth et moi, puisque nous n'avons pas immédiatement fui cet endroit, maintenant que nos conclusions, aussi démentielles soient-elles, étaient tirées et d'une nature que je n'aurais nul besoin d'expliciter auprès de ceux qui ont suivi mon récit jusqu'ici. Peut-être étions-nous fous. N'ai-je pas qualifié ces montagnes d'hallucinées? Mais je crois pouvoir détecter le même esprit, quoique sous une forme moins extrême chez ceux qui chassent les bêtes sauvages dans les jungles d'Afrique. Certes, nous étions à moitié paralysés par la terreur, mais nous brûlions néanmoins de fascination et de curiosité, et ce sont ces émotions qui ont fini par l'emporter. Bien sûr, nous n'avions aucune envie de nous retrouver face à celui ou ceux qui s'étaient trouvés ici, mais nous pensions qu'ils devaient déjà être partis. Ils avaient certainement trouvé l'autre entrée menant à l'abîme et s'y étaient sans doute glissés, se précipitant vers toute ténébreuse survivance du passé qui pouvait les attendre dans le gouffre ultime, celui-là même qu'ils n'avaient encore jamais vu. Ou bien, si cette entrée était bloquée, elle aussi, ils auraient continué vers le nord pour en trouver une autre. Et il est vrai qu'ils pouvaient se passer de lumière. Quand je repense à ces moments, je peux à peine me rappeler quelles formes précises ont pris nos émotions et quel changement d'objectif immédiat a aiguisé notre impatience. Nous ne voulions certainement pas nous retrouver face à ce que nous redoutions, et pourtant, je ne nierai pas que nous entretenions peut-être inconsciemment le désir d'observer certaines choses depuis quelques points de vue discrets. Nous n'avions probablement pas perdu notre envie d'apercevoir l'abîme lui-même, bien que nous ayons désormais un nouveau but, le vaste espace circulaire représenté sur les dessins froissés que nous avions ramassés. Nous l'avions tout de suite identifié comme une monstrueuse tour cylindrique représentée sur les plus anciens bas-reliefs, mais qui, d'en haut, n'apparaissait que comme une monumentale ouverture. Sa taille impressionnante, même sur ses croquis rudimentaires, nous donnait à penser que ces niveaux situés en dessous de la couche de glace devaient avoir conservé une importance particulière. Peut-être contenait-elle des merveilles architecturales telles que nous n'en avions encore jamais vues. S'il fallait en juger par les sculptures dans lesquelles elle figurait, Elle devait être extrêmement ancienne, sans doute même l'un des tout premiers bâtiments construits dans cette cité. Ces bas-reliefs, s'ils étaient bien conservés, seraient certainement de la plus grande importance. De plus, cette tour pouvait nous relier au monde de la surface, offrant un chemin plus court pour remonter que celui que nous tracions si soigneusement, probablement celui-là même qu'avaient emprunté les autres pour leur descente.